Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Leon Meyer. Essays in Radical Empiricism by William James. Chapter 12. Absolutism and Empiricism. No seeker of truth can fail to rejoice at the terre-à-terre sort of discussion of the issues between empiricism and transcendentalism, or, as the champions of the latter would probably prefer to say, between irrationalism and rationalism, that seems to have begun in mind. It would seem as if, over concrete examples like Mr. J.S. Haldane's, both parties ought inevitably to come to a better understanding. As a reader with a strong bias towards irrationalism, I have studied his article with the liveliest admiration of its temper and its painstaking effort to be clear. But the cases discussed fail to satisfy me, and I was at first tempted to write a note animadverting upon them in detail. The growth of the limb, the sea's contour, the vicarious functioning of the nerve center, the digitalis curing the heart, are, unfortunately, not cases where we can see any through-and-through conditioning of the parts by the whole. They are all cases of reciprocity where subjects, supposed independently to exist, acquire certain attributes through their relations to other subjects. That they also exist through similar relations is only an ideal supposition, not verified to our understanding in these or any other concrete cases whatsoever. If, however, one were to urge this solemnly, Mr. Haldane's friends could easily reply that he only gave us such examples on account of the hardness of our hearts. He knew full well their imperfection, but he hoped that to those who would not spontaneously ascend to the notion of the totality, these cases might prove a spur, and suggest and symbolize something better than themselves. No particular case that can be brought forward is a real concrete. They are all abstractions from the whole, and of course the through-and-through character cannot be found in them. Each of them still contains, among its elements, what we call things, grammatical subjects, forming a sort of residual caput mortuum of existence after all the relations that figure in the examples have been told off. On this existence, thinks popular philosophy, things may live on, like the winter bears on their own fat, never entering relations at all, or, if entering them, entering an entirely different set of them from those treated of in Mr. Haldane's examples. Thus, if the digitalis were to weaken instead of strengthening the heart, and to produce death, as sometimes happens, it would determine itself, through determining the organism, to the function of kill instead of that of cure. The function and relation seem adventitious, depending on what kind of a heart the digitalis gets hold of, the digitalis and the heart being facts external and, so to speak, accidental to each other. But this popular view, Mr. Haldane's friends will continue, is an illusion. What seems to us the existence of digitalis and heart outside of the relations of killing or curing is but a function in a wider system of relations, of which pro hoc vicè we take no account. The larger system determines the existence just as absolutely as the system kill or the system cure determine the function of the digitalis. Ascend to the absolute system instead of biding with these relative and partial ones, and you shall see that the law of through and throughness must and does obtain. Of course, this argument is entirely reasonable, and debars us completely from chopping logic about the concrete examples Mr. Haldane has chosen. It is not his fault if his categories are so fine an instrument that nothing but the sum total of things can be taken to show us the manner of their use. It is simply our misfortune that he has not the sum total of things to show it by. Let us fall back from all concrete attempts and see what we can do with his notion of through and throughness, avowedly taken in abstracto. In abstract systems, the through and through ideal is realized on every hand. In any system, as such, the members are only members in the system. Abolish the system, and you abolish its members, for you have conceived them through no other property than the abstract one of membership. Neither rightness nor leftness, except through bilaterality. Neither mortgager nor mortgagee, except through mortgage. The logic of these cases is this: if A, then B, but if B, then A. Wherefore, if either, both, and if not both, nothing. It costs nothing, not even a mental effort, to admit that the absolute totality of things may be organized exactly after the pattern of one of these through-and-through abstractions. In fact, it is the pleasantest and freest of mental movements. Husband makes, and is made by, wife, through marriage. One makes other, by being itself other. Everything self-created through its opposite. You go round like a squirrel in a cage. But if you stop and reflect upon what you are about, you lay bare the exact point at issue between common sense and the through-and-through school. What, in fact, is the logic of these abstract systems? It is, as we said above, if any member, then the whole system. If not the whole system, then nothing. But how can logic possibly do anything more with these two hypotheses than combine them into the single disjunctive proposition, quote, either this whole system, just as it stands, or nothing at all, unquote? Is not that disjunction the ultimate word of logic in the matter? And can any disjunction, as such, resolve itself? It may be that Mr. Haldane sees how one horn, the concept of the whole system, carries real existence with it. But if he has been as unsuccessful as I in assimilating the Hegelian re-editings of the Anselmian proof, he will have to say that though logic may determine what the system must be, if it is, something else than logic must tell us that it is. Mr. Haldane in this case would probably consciously, or unconsciously, make an appeal to fact. The disjunction is decided, since no one can dispute that now, as a matter of fact. Something, and not nothing, is. We must, therefore, he would probably say, go on to admit the whole system in the desiderated sense. Is not then the validity of the Anselmian proof the nucleus of the whole question between logic and fact? Ought not the efforts of Mr. Haldane and his friends to be principally devoted to its elucidation? Is it not the real door of separation between empiricism and rationalism? And if the rationalists leave that door for a moment off its hinges, can any power keep that abstract, opaque, unmediated, external, irrational, and irresponsible monster, known to the vulgar as bare fact, from getting in and contaminating the whole sanctuary with his presence? Can anything prevent Faust from changing am Anfang war das Wort into am Anfang war die Tat? Nothing in earth or heaven. Only the Anselmian proof can keep fact out of philosophy. The question, shall fact be recognized as an ultimate principle, is the whole issue between the rationalists and the empiricism of vulgar thought. Of course, if so recognized, fact sets a limit to the through-and-through character of the world's rationality. That rationality might then mediate between all the members of our conception of the world, but not between the conception itself and reality. Reality would have to be given, not by reason, but by fact. Fact holds out blankly, brutally, and blindly against that universal deliquescence of everything into logical relations which the absolutist logic demands, and it is the only thing that does hold out. Hence the ire of the absolutist logic, hence its non-recognition, its cutting of fact. The reasons it gives for the cutting are that fact is speechless, a mere word for the negation of thought, a vacuous unknowability, a dog in the manger, in truth, which, having no rights of its own, can find nothing else to do than to keep its betters out of theirs. There are two points involved here. First, the claim that certain things have rights that are absolute, ubiquitous, and all-pervasive, and in regard to which nothing else can possibly exist in its own right. And second, that anything that denies this assertion is pure negativity with no positive context whatsoever. Take the latter point first. Is it true that what is negative in one way is thereby convicted of incapacity to be positive in any other way? The word fact is like the word accident, like the word absolute itself. They all have their negative connotation. In truth, their whole connotation is negative and relative. All it says is that, whatever the thing may be that is denoted by the words, other things do not control it. Where fact, where accident is, they must be silent. It alone can speak. But that does not prevent its speaking as loudly as you please, in its own tongue. It may have an inward life, self-transparent and active in the maximum degree. An indeterminate future volition on my part, for example, would be a strict accident as far as my present self is concerned. But that could not prevent it, in the moment in which it occurred, from being possibly the most intensely living and luminous experience I ever had. Its quality of being a brute fact, ab extra, says nothing whatever as to its inwardness. It simply says to outsiders, hands off. And this brings us back to the first point of the absolutist indictment of fact. Is that point really anything more than a fantastic dislike to letting anything say, hands off? What else explains the contempt the absolutist authors exhibit for a freedom defined simply on its negative side, as freedom from, etc.? What else prompts them to deride such freedom? But dislike for dislike, who shall decide? Why is not their dislike at having me from them entirely on a par with mine at having them through me? I know very well that in talking of dislikes to those who never mention them, I am doing a very coarse thing, and making a sort of intellectual Orson of myself. But for the life of me, I cannot help it, because I feel sure that likes and dislikes must be among the ultimate factors of their philosophy as well as of mine. Would they but admit it, how sweetly we then could hold converse together. There is something finite about us both, as we now stand. We do not know the absolute whole yet. Part of it is still negative to us. Among the whats of it still stalks a mob of opaque thats, without which we cannot think. But just as I admit that this is all possibly provisional, that even the Anselmian proof may come out all right, and creation may be a rational system through and through, why might they not also admit that it may all be otherwise, and that the shadow, the opacity, the negativity, the fromness, the plurality that is ultimate, may never be wholly driven from the scene? We should both then be avowedly making hypotheses, playing with ideals. Ah, why is the notion of hypothesis so abhorrent to the Hegelian mind? And once down on our common level of hypothesis, we might then admit skepticism, since the whole is not yet revealed, to be the soundest logical position. But since we are in the main not skeptics, we might go on and frankly confess to each other the motives for our several faiths. I frankly confess mine. I cannot think but that at bottom they are of an aesthetic and not of a logical sort. The through-and-through universe seems to suffocate me with its infallible, impeccable, all-pervasiveness, its necessity with no possibilities, its relations with no subjects, make me feel as if I had entered into a contract with no reserved rights, or rather as if I had to live in a large seaside boarding-house with no private bedroom in which I might take refuge from the society of the place. I am distinctly aware, moreover, that the old quarrel of sinner and Pharisee has something to do with the matter. Certainly, to my personal knowledge, all Hegelians are not prigs, but I somehow feel as if all prigs ought to end, if developed, by becoming Hegelians. There is a story of two clergymen asked by mistake to conduct the same funeral. One came first, and had got no farther than, "I am the resurrection and the life," when the other entered. "I am the resurrection and the life," cried the latter. The through-and-through philosophy, as it actually exists, reminds many of us of that clergyman. It seems too buttoned-up and white-chokered and clean-shaven a thing to speak for the vast, slow-breathing, unconscious cosmos with its dread abysses and its unknown tides. The freedom we want to see there is not the freedom, with a string tied to its leg and warranted not to fly away, of that philosophy. Let it fly away, we say. From us, I what then? Again, I know I am exhibiting my mental grossness, but again, ik kan niet anders. I show my feelings, why will not they show theirs? I know they have a personal feeling about the through-and-through universe, which is entirely different from mine, and which I should very likely be much the better for gaining if they would only show me how. Their persistence in telling me that feeling has nothing to do with the question, that it is a pure matter of absolute reason, keeps me forever out of the pale. Still seeing a that in things which logic does not expel, the most I can do is to aspire to the expulsion. At present I do not even aspire. Aspiration is a feeling. What can kindle feeling but the example of feeling? And if the Hegelians will refuse to set an example, what can they expect the rest of us to do? To speak more seriously, the one fundamental quarrel empiricism has with absolutism is over this repudiation by absolutism of the personal and aesthetic factor in the construction of philosophy. That we all of us have feelings, empiricism feels quite sure. That they may be as prophetic and anticipatory of truth as anything else we have, and some of them more so than others, cannot possibly be denied. But what hope is there of squaring and settling opinions unless absolutism will hold parley on this common ground, and will admit that all philosophies are hypotheses, to which all our faculties, emotional as well as logical, help us, and the truest of which will, at the final integration of things, be found in possession of the men whose faculties on the whole had the best divining power. End of chapter 12.
This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. Essays in Radical Empiricism by William James. Chapter 13, Controversy About Truth. William James, John E. Russell. The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods. Volume 4, Issue 11, May 23, 1907, pages 289-296. Discussion. Controversy about Truth. To the editors of the Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods. The pragmatistic conception of truth is so important that no amount of printer's ink spent upon it ought to be considered wasted. My exposition of it in number 6 of this year's journal was sent back to me with copious critical annotations on its margins by Professor John E. Russell. This led to an exchange of letters between us, in which one issue, at least, got sharpened, and as that issue is probably the most prevalent stumbling block, I ask you, in the interest of clarifying the question, to print the correspondence as it was written. I subjoin our letters. Sincerely yours, William James. 1. Dear Russell, your notes bring out the exact point of misunderstanding and the exact difficulty with which pragmatism has to cope in making converts. You say, quote, "Events in the way of verification do not make an idea true. They only prove that it is true or was true." Unquote. There is the whole difference between us in a nutshell. The statement seems to mean that truth is a quality of the idea numerically distinct from the events which are its proof. But don't you then think that the said quality ought to be somehow definable as it is in and per se? I hoped for the definition as I read your comments, but in the end I found no new definition, only the old ones of agreement with reality and of thinking the reality as it is. Now what does agreement mean? Does it mean anything different from, or prior to, the copyings and leadings by which pragmatism explicates the word? These are perfectly well-defined relations of the idea to the reality or to the reality's associates and surroundings. And what does thinking the reality as it is mean unless it be either copying it or leading straight up to it or thinking it in its right surroundings, which last notion means terminating at places to which it, the reality, also leads? You speak of Le Verrier's idea of Neptune being true before it had led him to verify it. Doubtless. But pray define its truth apart from those leadings and guidings. The word truth means just such leadings and guidings. Had his idea led him to point his telescope to a vacant part of the sky, it would have been untrue. Is untruth, then, also a resident and previous quality in ideas? Leading to that point, Le Verrier's idea certainly was true. I can conceive no other kind of truth, and, of course, quite as true when only verifiable as it was after the verification. Even so, the star was Neptune, both before and after its baptism, for in the star universe, that star is all that Neptune ever can mean. In the case of Neptune, you don't separate the name from the fact found, and make it a cause thereof. You don't say the star was found at that point because it was Neptune. But in the case of the idea, you say it led to that point because it was true. But just as Neptune means nothing but the star, which at a certain moment is at that point, so true means nothing but the idea which, instead of leading you elsewhere, leads you thither. Otherwise, it's like raising a dispute about whether blood is red because it looks so, or looks so because it's red. You ought to insist on the latter formula. I call them equally correct. You may say either that the leading makes the idea true, or that it proves it true, for you are only talking of the same thing in different words. The leading both makes you call the idea true, and proves that you have called it so justly. Take another illustration. Does bread nourish us because it is food? Or is it food because it nourishes? Or, finally, are being food and nourishing only two ways of naming the same physiological events? And if this last view be correct here, why isn't it just as correct in the case of truth? The concrete facts denoted by the word truth are ideas that guide us towards certain termini. Other connotations of the word than these same guidings it is for you to show. If you can't, then we may say either that the ideas are true because they guide, or that they guide because they are true. To be true and to guide are precisely equivalent terms, of which you may make either you like the more primordial in significance. Otherwise, and this is the point which I emphasize and on which I insist, you must point out some substantive connotation in the word truth over and above such guiding processes. If you can do this, I surrender, but I don't see how you can do it. It seems to me that there is no other connotation, any more than there is in the case of Neptune. Neptune means the star that gets there, and true means the idea that gets there. Agreement, correspondence, thinking the object as it is, all resolve themselves into guidings, into getting there somehow. You argue as if, in spite of its getting there, an idea might still be false, unless the intrinsic epistemological virtue of being true were superadded. I wish you'd explain how. To me it couldn't be false under those circumstances. Revert to food. In this case we do have some additional connotations, a certain chemical structure, say, that explain the physiological events in advance. We know nothing of such connotations as yet, but we suppose they may some day be known. If the word food should connote primarily such chemical structure, and only secondarily digestions, absorptions, etc., then you might contend that bread nourishes because it is food, and isn't food because it nourishes. But you would still be on purely verbal ground, and even then you would have to define positively these newfangled connotations. Meanwhile, please observe that the word true has absolutely no such further connotations. It has no more of them than Neptune has. It denotes certain ideas, and it connotes their getting there. Here I must leave the matter. As a pragmatist, I can defy you to find any other practical meaning to the word truth than that it guides and gets us there. If, failing to do that, you nevertheless call our account an inadequate account of what you mean by truth, why then, again as a pragmatist, I can wash my hands of the whole controversy. It is trivial. It has no meaning. Yours, etc., William James.
2. Dear James, I think the issue between the intellectualist and the pragmatist narrows itself down to the question of the validity and the value of two distinctions. The first is the distinction between the ideas being true and the proof that the idea is true. The second distinction is that between a true idea and its instrumental function in leading, guiding behavior to desirable issues in experience. The intellectualist insists that these distinctions are valid and important to a right conception of knowledge. The pragmatist denies this. He contends that the terms true, truth, leading, guiding, getting there, etc., are different names for the same thing, that the term truth applied to an idea has the same function that the name Neptune, for instance, has when applied to a particular planetary body in the heavens. The pragmatist, after having made agreeing with reality, being as it is thought, etc., mean leading, guiding, coming into practical relation with, getting there, etc., challenges the intellectualist to point out any other significant connection which his terms true, truth, etc. can have. The pragmatist says to the intellectualist, I pray you to define the truth of an idea apart from its leadings and guidings. I defy you to supply other meanings to the word truth than that of guiding and getting us there. Does agreement mean anything different from that copying and leading by which pragmatism explicates this word? Now this puts the intellectualist in a hard situation. If he answers, I mean by a true idea an idea that agrees with, that copies or corresponds to reality, the pragmatist replies, but what is it to agree with, to copy, etc., reality, if it be not just to lead, to guide, to get there? Now what can the intellectualist say in reply? Suppose he undertakes to define his meaning of truth in different terms. These terms would suffer the same fate. The pragmatist would explicate them in his terms of leading, guiding, getting there, etc., and then ask the naked intellectualist to put on different garments. I can see no other way by which the intellectualist can escape this dilemma than simply to abide by the terms by which he has defined a true idea, and insist that it is the pragmatist who is forced upon these terms a meaning they cannot take without involving one in intellectual confusion. The intellectualist should, therefore, maintain that the terms in which he explicates the meaning of a true idea give a perfectly defined relation of the idea to reality. What more definite relation can legitimately be demanded? How can the intellectualist, in fairness, be asked to define in other terms what he means by agreement with, by copying, by thinking reality as it is? May he not, with more propriety, ask the pragmatist by what right he makes these terms mean leading, guiding, getting there, etc.? This leads me to the real issue between the intellectualist and the pragmatist, and first to that distinction between an idea's being true and the proof that it is or was true. Let us take the case of Le Verrier and the discovery of the planet Neptune. We have the following things. 1. Certain perturbations in the motions of the planet Uranus which could not be explained by the influence of known bodies of the solar system. 2. We have Le Verrier's idea of a planetary body of a certain mass and position in the heavens. 3. We have the agreement between the calculated perturbations which this hypothetical body should produce in the motions of Uranus and the actual perturbations observed. 4. We have the discovery of this planet, afterwards named Neptune, by a German astronomer who, following the suggestion of Le Verrier, pointed his telescope to that exact spot in the heavens where this planet was. Now the intellectualist contends that Le Verrier's hypothetical conception was true the instant it existed in his mind, and that the trueness of his idea consisted in its agreement with a fact, a piece of reality, an object, at that time existing, namely, that planet occupying a particular place in the physical universe. It was the existence of Neptune then and there which made it possible for him to have a true idea at that time. Had he thought differently about this planet, this same body would have made his thought untrue. His idea was true for no other reason, and true in no other meaning of the terms, than that it agreed with its object. Furthermore, the contention of the intellectualist is that had Le Verrier gone no farther in his undertaking, had no telescope ever discovered that planet, his idea would have been as true as it was after the discovery, which completed the verification of his hypothesis. His idea did not get its quality of truth by the process of verification. This only produced the certainty, in his and other minds, that his idea was true. It is one thing for an idea to be true. It is quite a different thing to prove that this idea is true. It is one thing to hit a mark. To know that you have hit a mark is a different thing. A bell may ring to let you know that you have made a bull's eye. The ringing of the bell is a sign, the criterion of the correctness of your aim, but it hardly constitutes the trueness of your aim or your making the bull's eye. Le Verrier's idea hit its mark. What was subsequently done made that fact known. Truth and verification are therefore different things, and to make the truth or the verity of an idea consist in its verification is to introduce mental confusion, and to make unintelligible such a procedure as Le Verrier's in the discovery of Neptune. It is true to say that a true idea is one that can be verified, and that only true ideas can be verified. But then these ideas are not true because they are verified. They are verifiable because they are already true. This brings the intellectualist to the second distinction upon which he insists, namely the distinction between truth and its valuation in terms of desirable experience. To say that truth should have good practical consequences that those ideas are true which work well in practice, that every true idea leads into satisfying experiences of some sort, is to say what no intellectualist need deny. But to say that an idea is true because it has this practically good issue, or because it works well, is to say quite a different thing, and something which no intellectualist can accept. There are, so contends the intellectualist, conditions on which our human action or the course of experience depends, and to which our actions, our experiences, must conform if they are to have successful and satisfying issues. Only as a particular experience is in agreement with conditions of experience, überhaupt, can it lead to beneficial or desirable experiences. Ideas, therefore, can work well, can lead successfully, only if they first agree with reality, with the objective and determining conditions of our experience. This is just the fact that the pragmatist overlooks when he identifies the truth of an idea with its practically good leadings and consequences. He insists that truth shall be practical, but he fails to answer the question, how can an idea or a course of experience have a practically good leading or result? To take your illustration of bread as food, you ask, does bread nourish because it is food, or is it food because it nourishes? Or are being food and nourishing only two ways of meaning the same physiological events? The intellectualist answers, bread nourishes us because it contains those chemical elements which are nutritive. A particular substance is not bread because it nourishes because it is bread. Being food and nourishing are two ways of meaning the same physiological events, but being bread and nourishing are not two ways of meaning the same physiological events. The intellectualist need not deny that a true idea has an instrumental function in relation to our various needs, that a true idea is a tool to be used in the service of the will or our practical nature. But he contends that the efficiency of the instrument, the serviceableness of the tool, depends upon the construction of the instrument, upon the quality of the tool. That a knife cuts well proves indeed that it is a good knife. But that which enables the knife to cut well is the quality of the steel and the fashion of the instrument. In other words, the knife cuts well because it was rightly made. Its cutting well merely proves that the knife was rightly made. The proof of the pudding is in the eating. But it will hardly do to say, therefore, the good eating is the pudding. Or is that in the pudding which gives us that satisfying experience of eating this pudding? Yours, etc., John E. Russell.
3. Dear Russell, your letter is so ultra clear and brings the question down to where the wool is so short that I can't help dashing off one more word, though I know I can't convert you. First, I note with extreme pleasure your explicit confession that truth, in the intellectualist sense, cannot be further defined. It means agreement, and agreement means truth. That is one point clearly gained. My second remark is simply this. If true be not an abstract name for the property of verifiability in an idea, then an idea might conceivably be true, though absolutely unverifiable. There might be no empirical mediation between it and its object, no leading either to the object, or towards it, or into its associates, and yet it might still be true as agreeing with the object. But then you are met by Royce's old argument. How do you know it means to be true of that object? It might agree perfectly in the sense of copying, yet not be true unless it meant to copy, und zwar that particular original. An egg isn't true of another egg, because it is not supposed to aim at the other egg at all, or to intend it. Neither is my toothache true of your toothache. Royce makes the absolute do the aiming and intending. I make the chain of empirical intermediaries do it. What does it in your philosophy? Yours, etc., William James.
4. Dear James, according to the meaning of a true idea I have been maintaining, it does follow not only that an idea is true prior to its verification, but also that an idea may remain unverified in our human experience. I would not, however, say that an idea can be true and be absolutely unverifiable, for there may be such a being as Royce's absolute, and if so, no true idea can remain unverified. In the experience of the Roycean absolute, truth and verification do not fall apart as they do in our human experience. The Roycean question with which you confront me, I must confess, has never given me a pause or seemed a serious one at all. How do you know that your idea means to be true of its object? I answer, when I think, I know what I am thinking about, just as I know what mark I am aiming at when I am engaged in target shooting. My thinking as such is selective of its object, and knows its own intent, namely to think that object as that object is. My thought picks out this particular piece of the real world and means to agree with it just as I pick out my target and intend to hit it. For instance, I am now thinking of you among your books in your study at Cambridge. I mean to think of you and your immediate surroundings, your present doings, as you and they are now at this hour, 10 o'clock in the morning. In so doing, I know what object I mean to agree with in my present thinkings. Now, the Roycean absolute may exist, and if it does, he of course knows whether or not my present thought of you is now true, but the knowing of that being is no more necessary to constitute the truth of my idea, or to explain the fact that I aim at you in my idea, than is the presence of an onlooker when I am shooting at a mark essential to my aiming at and hitting, or missing, that mark. Nor does it seem to me that your claim of intermediaries is in any manner essential to the meaning, the intent, or the truth of my present thought of you, which is sufficient unto itself both to select its object and to determine its truth or untruth. Yours, etc., John E. Russell.
5. Dear Russell, we seem now to have laid bare our exact difference. According to me, meaning a certain object and agreeing with it are abstract notions, of both of which definite concrete accounts can be given. According to you, they shine by their own inner light, and no further account can be given. They may even obtain, in cases where human verification is impossible, and make no empirical difference to us. To me, using the pragmatic method of testing concepts, this would mean that the word truth might on certain occasions have no meaning whatever. I still must hold to its having always a meaning, and continue to contend for that meaning being unfoldable and representable in experiential terms. Yours, etc., William James. End of chapter 13, Controversy about Truth.
This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording in French by Ezwa. Essays in Radical Empiricism by William James, Section 14, Chapitre 8, La Notion de Conscience. Je voudrais vous communiquer quelques doutes qui me sont venus au sujet de la notion de conscience qui règne dans tous nos traités de psychologie. On définit habituellement la psychologie comme la science des faits de conscience, ou des phénomènes, ou encore des états de la conscience. Qu'on admette qu'elle se rattache à des moi personnels, ou bien qu'on la croie impersonnelle à la façon du moi transcendantal de Kant, de la Bewusstheit ou du Bewusstsein-Überhaupt de nos contemporains en Allemagne, cette conscience est toujours regardée comme possédant une essence propre, absolument distincte de l'essence des choses matérielles, qu'elle a le don mystérieux de représenter et de connaître. Les faits matériels, pris dans leur matérialité, ne sont pas éprouvés, ne sont pas objets d'expérience, ne se rapportent pas. Pour qu'ils prennent la forme du système dans lequel nous nous sentons vivre, il faut qu'ils apparaissent, et ce fait d'apparaître, se rajouter à leur existence brute, s'appelle la conscience que nous en avons, ou peut-être, selon l'hypothèse panpsychiste, qu'ils ont d'eux-mêmes. Voilà ce dualisme invétéré qu'il semble impossible de chasser de notre vue du monde. Ce monde peut bien exister en soi, mais nous n'en savons rien, car pour nous, il est exclusivement un objet d'expérience, et la condition indispensable à cet effet, c'est qu'il soit rapporté à des témoins, qu'il soit connu par un sujet ou par des sujets spirituels. Objet et sujet, voilà les deux jambes sans lesquelles il semble que la philosophie ne saurait faire un pas en avant. Toutes les écoles sont d'accord là-dessus. Scolastique, cartésianisme, kantisme, néo-kantisme, tous admettent le dualisme fondamental. Le positivisme ou agnosticisme de nos jours, qui se pique de relever des sciences naturelles, se donne volontiers, il est vrai, le nom de monisme. Mais ce n'est qu'un monisme verbal. Il pose une réalité inconnue, mais nous dit que cette réalité se présente toujours sous deux aspects, un côté conscience et un côté matière, et ces deux côtés demeurent aussi irréductibles que les attributs fondamentaux, étendus et pensés, du dieu de Spinoza. Au fond, le monisme contemporain est du spinozisme pur. Ou comment se représente-t-on cette conscience dont nous sommes tous si portés à admettre l'existence ? Impossible de la définir, nous dit-on, mais nous en avons tous une intuition immédiate. Tout d'abord, la conscience a conscience d'elle-même. Demandez à la première personne que vous rencontrerez, homme ou femme, psychologue ou ignorant, et elle vous répondra qu'elle se sent penser, jouir, souffrir, vouloir, tout comme elle se sent respirer. Elle perçoit directement sa vie spirituelle comme une espèce de courant intérieur, actif, léger, fluide, délicat, diaphane pour ainsi dire, et absolument opposé à quoi que ce soit de matériel. Bref, la vie subjective ne paraît pas seulement être une condition logiquement indispensable pour qu'il y ait un monde objectif qui apparaisse. C'est encore un élément de l'expérience même que nous éprouvons directement, au même titre que nous éprouvons notre propre corps. Idées et choses, comment donc ne pas reconnaître leur dualisme ? Sentiments et objets, comment douter de leur hétérogénéité absolue ? La psychologie soi-disant scientifique admet cette hétérogénéité comme l'ancienne psychologie spiritualiste l'admettait. Comment ne pas l'admettre ? Chaque science découpe arbitrairement dans la trame des faits un champ où elle se parque et dont elle décrit et étudie le contenu. La psychologie prend justement pour son domaine le champ des faits de conscience. Elle les postule sans les critiquer, elle les oppose aux faits matériels, et sans critiquer non plus la notion de ces derniers, elle les rattache à la conscience par le lien mystérieux de la connaissance, de l'aperception, qui pour elle est un troisième genre de fait fondamental et ultime. En suivant cette voie, la psychologie contemporaine a fait de grands triomphes. Elle a pu faire une esquisse de l'évolution de la vie consciente, en concevant cette dernière comme s'adaptant de plus en plus complètement au milieu physique environnant. Elle a pu établir un parallélisme dans le dualisme, celui des faits psychiques et des événements cérébraux. Elle a expliqué les illusions, les hallucinations, et jusqu'à un certain point, les maladies mentales. Ce sont de beaux progrès, mais il reste encore bien des problèmes. La philosophie générale, surtout, qui a pour devoir de scruter tous les postulats, trouve des paradoxes et des empêchements là où la science passe outre. Et il n'y a que les amateurs de sciences populaires qui ne sont jamais perplexes. Plus on va au fond des choses, plus on trouve d'énigmes. Et j'avoue pour ma part que depuis que je m'occupe sérieusement de psychologie, ce vieux dualisme de matière et de pensée, cette hétérogénéité posée comme absolue des deux essences, m'a toujours présenté des difficultés. C'est de quelques-unes de ces difficultés que je voudrais maintenant vous entretenir. D'abord, il y en a une, laquelle, j'en suis convaincu, vous aura frappé tous. Prenons la perception extérieure, la sensation directe que nous donnent par exemple les murs de cette salle. Peut-on dire ici que le psychique et le physique sont absolument hétérogènes ? Au contraire, ils sont si peu hétérogènes que si nous nous plaçons au point de vue du sens commun, si nous faisons abstraction de toutes les inventions explicatives, des molécules et des ondulations éthérées par exemple, qui au fond sont des entités métaphysiques, si, en un mot, nous prenons la réalité naïvement et telle qu'elle nous est donnée tout d'abord, cette réalité sensible d'où dépendent nos intérêts vitaux et sur laquelle se portent toutes nos actions, eh bien, cette réalité sensible et la sensation que nous en avons sont, au moment où la sensation se produit, absolument identiques l'une à l'autre. La réalité est la perception même. Les mots « mur de cette salle » ne signifient que cette blancheur fraîche et sonore qui nous entoure, coupée par ses fenêtres, bornée par ses lignes et ses angles. Le physique ici n'a pas d'autre contenu que le psychique, le sujet et l'objet se confondent. C'est Berkeley qui le premier a mis cette vérité en honneur. Esse est principi. Nos sensations ne sont pas de petites duplicats intérieurs des choses. Elles sont les choses mêmes en tant que les choses nous sont présentes. Et quoi que l'on veuille penser de la vie absente, cachée et pour ainsi dire privée des choses, et quelles que soient les constructions hypothétiques qu'on en fasse, il reste vrai que la vie publique des choses, cette actualité présente par laquelle elle nous confronte, d'où dérivent toutes nos constructions théoriques, et à laquelle elles doivent toutes revenir et se rattacher sous peine de flotter dans l'air et dans l'irréel, cette actualité, dis-je, est homogène, et non pas seulement homogène, mais numériquement une, avec une certaine partie de notre vie intérieure. Voilà pour la perception extérieure. Quand on s'adresse à l'imagination, à la mémoire ou aux facultés de représentation abstraite, bien que les faits soient ici beaucoup plus compliqués, je crois que la même homogénéité essentielle se dégage. Pour simplifier le problème, excluons d'abord toute réalité sensible. Prenons la pensée pure, telle qu'elle s'effectue dans le rêve ou la rêverie, ou dans la mémoire du passé. Ici encore, l'étoffe de l'expérience ne fait-elle pas double emploi? Le physique et le psychique ne se confondent-ils pas? Si je rêve d'une montagne d'or, elle n'existe sans doute pas en dehors du rêve, mais dans le rêve, elle est de nature ou d'essence parfaitement physique. C'est comme physique qu'elle m'apparaît. Si en ce moment je me permets de me souvenir de ma maison en Amérique et des détails de mon embarquement récent pour l'Italie, le phénomène pur, le fait qui se produit, qu'est-il? C'est, dit-on, ma pensée avec son contenu. Mais encore ce contenu, qu'est-il? Il porte la forme d'une partie du monde réel, partie distante, il est vrai, de 6 000 kilomètres d'espace et de 6 semaines de temps, mais reliée à la salle où nous sommes par une foule de choses, objets et événements, homogènes d'une part avec la salle, et d'autre part avec l'objet de mes souvenirs. Ce contenu ne se donne pas comme étant d'abord un tout petit fait intérieur que je projetterai ensuite au loin. Il se présente d'emblée comme le fait éloigné même. Et l'acte de penser ce contenu, la conscience que j'en ai, que sont-ils? Sont au fond autre chose que des manières rétrospectives de nommer le contenu lui-même, lorsqu'on l'aura séparé de tous ses intermédiaires physiques et relié à un nouveau groupe d'associés qui le font rentrer dans ma vie mentale, les émotions par exemple qu'il a éveillées en moi, l'attention que j'y porte, mes idées de tout à l'heure qui l'ont suscité comme souvenir? Ce n'est qu'en se rapportant à ces derniers associés que le phénomène arrive à être classé comme pensée. Tant qu'il ne se rapporte qu'au premier, il demeure phénomène objectif. Il est vrai que nous opposons habituellement nos images intérieures aux objets et que nous les considérons comme de petites copies, comme des calques ou doubles affaiblis de ces derniers. C'est qu'un objet présent a une vivacité et une netteté supérieures à celle de l'image. Il lui fait ainsi contraste, et pour me servir de l'excellent mot de Taine, il lui sert de réducteur. Quand les deux sont présents ensemble, l'objet prend le premier plan et l'image recule, devient une chose absente. Mais cet objet présent, qu'est-il en lui-même? De quelle étoffe est-il fait? De la même étoffe que l'image. Il est fait de sensations, il est chose perçue. Son esse est principi et lui et l'image sont génériquement homogènes. Si je pense en ce moment à mon chapeau que j'ai laissé tout à l'heure au vestiaire, où est le dualisme, le discontinu, entre le chapeau pensé et le chapeau réel? C'est d'un vrai chapeau absent que mon esprit s'occupe. J'en tiens compte pratiquement comme d'une réalité. S'il était présent sur cette table, le chapeau déterminerait un mouvement de ma main. Je l'enlèverais. De même, ce chapeau conçu, ce chapeau en idée, déterminera tantôt la direction de mes pas. J'irai le prendre. L'idée que j'en ai se continuera jusqu'à la présence sensible du chapeau et s'y fondra harmonieusement. Je conclus donc que, bien qu'il y ait un dualisme pratique, puisque les images se distinguent des objets, en tiennent lieu et nous y mènent, il n'y a pas lieu de leur attribuer une différence de nature essentielle. Pensée et actualité sont faites d'une seule et même étoffe, qui est l'étoffe de l'expérience en général. La psychologie de la perception extérieure nous mène à la même conclusion. Quand j'aperçois l'objet devant moi, comme une table de telle forme, à telle distance, on m'explique que ce fait est dû à deux facteurs, à une matière de sensation qui me pénètre par la voie des yeux et qui donne l'élément d'extériorité réelle, et à des idées qui se réveillent, vont à la rencontre de cette réalité, la classe et l'interprète. Mais qui peut faire la part, dans la table concrètement aperçue, de ce qui est sensation et de ce qui est idée? L'extérieur et l'intérieur, l'étendu et l'inétendu, se fusionnent et font un mariage indissoluble. Cela rappelle ces panoramas circulaires où des objets réels, rochers, herbes, chariots brisés, etc., qui occupent l'avant-plan, sont si ingénieusement reliés à la toile qui fait le fond et qui représente une bataille ou un vaste paysage que l'on ne sait plus distinguer ce qui est objet de ce qui est peinture. Les coutures et les joints sont imperceptibles. Cela pourrait-il advenir si l'objet et l'idée étaient absolument dissemblables de nature ? Je suis convaincu que des considérations pareilles à celles que je viens d'exprimer auront déjà suscité, chez vous aussi, des doutes au sujet du dualisme prétendu. Et d'autres raisons de douter surgissent encore. Il y a toute une sphère d'adjectifs et d'attributs qui ne sont ni objectifs ni subjectifs d'une manière exclusive, mais que nous employons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme si nous nous complaisions dans leur ambiguïté. Je parle des qualités que nous apprécions, pour ainsi dire, dans les choses, leur côté esthétique, moral, leur valeur pour nous. La beauté, par exemple, où réside-t-elle ? Est-elle dans la statue, dans la sonate ou dans notre esprit ? Mon collègue à Harvard, George Santayana, a écrit un livre d'esthétique où il appelle la beauté le plaisir objectifié. Et en vérité, c'est bien ici qu'on pourrait parler de projection au dehors. On dit indifféremment une chaleur agréable ou une sensation agréable de chaleur. La rareté, le précieux du diamant nous en paraissent des qualités essentielles. Nous parlons d'un orage affreux, d'un homme haïssable, d'une action indigne, et nous croyons parler objectivement, bien que ces termes n'expriment que des rapports à notre sensibilité émotive propre. Nous disons même un chemin pénible, un ciel triste, un coucher de soleil superbe. Toute cette manière animiste de regarder les choses qui paraît avoir été la façon primitive de penser des hommes peut très bien s'expliquer, et M. Santayana, dans un autre livre tout récent, l'a bien expliqué ainsi, par l'habitude d'attribuer à l'objet tout ce que nous ressentons en sa présence. Le partage du subjectif et de l'objectif est le fait d'une réflexion très avancée que nous aimons encore ajourner dans beaucoup d'endroits. Quand les besoins pratiques ne nous en tirent pas forcément, il semble que nous aimons à nous bercer dans le vague. Les qualités secondes elles-mêmes, chaleur, son, lumière, n'ont encore aujourd'hui qu'une attribution vague. Pour le sens commun, pour la vie pratique, elles sont absolument objectives, physiques. Pour le physicien, elles sont subjectives. Pour lui, il n'y a que la forme, la masse, le mouvement qui est une réalité extérieure. Pour le philosophe idéaliste, au contraire, forme et mouvement sont tout aussi subjectifs que lumière et chaleur, et il n'y a que la chose en soi, inconnue, le noumène, qui jouissent d'une réalité extramentale complète. Nos sensations intimes conservent encore de cette ambiguïté. Il y a des illusions de mouvement qui prouvent que nos premières sensations de mouvement étaient généralisées. C'est le monde entier avec nous qui se mouvait. Maintenant, nous distinguons notre propre mouvement de celui des objets qui nous entourent, et parmi les objets, nous en distinguons qui demeurent en repos. Mais il est des états de vertige où nous retombons encore aujourd'hui dans l'indifférenciation première. Vous connaissez tous sans doute cette théorie qui a voulu faire des émotions des sommes de sensations viscérales et musculaires. Elle a donné lieu à bien des controverses et aucune opinion n'a encore conquis l'unanimité des suffrages. Vous connaissez aussi les controverses sur la nature de l'activité mentale. Les uns soutiennent qu'elle est une force purement spirituelle que nous sommes en état d'apercevoir immédiatement comme telle. Les autres prétendent que ce que nous nommons activité mentale, effort, attention par exemple, n'est que le reflet senti de certains effets dont notre organisme est le siège, tension musculaire au crâne et au gosier, arrêt ou passage de la respiration, afflux de sang, etc. De quelque manière que se résolvent ces controverses, leur existence prouve bien clairement une chose, c'est qu'il est très difficile, ou même absolument impossible de savoir, par la seule inspection intime de certains phénomènes, s'ils sont de nature physique, occupant de l'étendue, etc., ou s'ils sont de nature purement psychique et intérieure. Il nous faut toujours trouver des raisons pour appuyer notre avis. Il nous faut chercher la classification la plus probable du phénomène. Et en fin de compte, il pourrait bien se trouver que toutes nos classifications usuelles eussent eu leur motif plutôt dans les besoins de la pratique que dans quelques facultés que nous aurions d'apercevoir deux essences ultimes et diverses qui composeraient ensemble la trame des choses. Le corps de chacun de nous offre un contraste pratique presque violent à tout le reste du milieu ambiant. Tout ce qui arrive au-dedans de ce corps nous est plus intime et important que ce qui arrive ailleurs. Il s'identifie avec notre moi, il se classe avec lui. Âme, vie, souffle, qui saurait bien les distinguer exactement ? même nos images et nos souvenirs, qui n'agissent sur le monde physique que par le moyen de notre corps, semblent appartenir à ce dernier. Nous les traitons comme internes, nous les classons avec nos sentiments affectifs. Il faut bien avouer, en somme, que la question du dualisme de la pensée et de la matière est bien loin d'être finalement résolue. Et voilà terminée la première partie de mon discours. J'ai voulu vous pénétrer, mesdames et messieurs, de mes doutes et de la réalité, aussi bien que de l'importance du problème. Quant à moi, après de longues années d'hésitation, j'ai fini par prendre mon parti carrément. Je crois que la conscience, telle qu'on se la représente communément, soit comme une entité, soit comme une activité pure, mais en tout cas comme fluide, inétendue, diaphane, vide de tout contenu propre, mais se connaissant directement elle-même, spirituelle enfin, je crois, dis-je, que cette conscience est une pure chimère, et que la somme de réalités concrètes que le mot « conscience » devrait couvrir mérite une tout autre description. Description, du reste, qu'une philosophie attentive aux faits, et sachant faire un peu d'analyse, serait désormais en état de fournir, ou plutôt de commencer à fournir. Et ces mots m'amènent à la seconde partie de mon discours. Elle sera beaucoup plus courte que la première, parce que, si je la développais sur la même échelle, elle serait beaucoup trop longue. Il faut par conséquent que je me restreigne aux seules indications indispensables. Admettons que la conscience, la Bewusstheit, conçue comme essence, entité, activité, moitié irréductible de chaque expérience, soit supprimée, que le dualisme fondamental, et pour ainsi dire ontologique, soit aboli, et que ce que nous supposions exister soit seulement ce qu'on a appelé jusqu'ici le contenu, le Inhalt, de la conscience. Comment la philosophie va-t-elle se tirer d'affaire avec l'espèce de monisme vague qui en résultera? Je vais tâcher de vous insinuer quelques suggestions positives là-dessus, bien que je craigne que, faute du développement nécessaire, mes idées ne répondront pas avec une clarté très grande. Pourvu que j'indique un commencement de sentier, ce sera peut-être assez. Au fond, pourquoi nous accrochons-nous d'une manière si tenace à cette idée d'une conscience surajoutée à l'existence du contenu des choses? Pourquoi la réclamons-nous si fortement que celui qui la nierait nous semblerait plutôt un mauvais plaisant qu'un penseur? N'est-ce pas pour sauver ce fait indéniable que le contenu de l'expérience n'a pas seulement une existence propre et comme immanente et intrinsèque, mais que chaque partie de ce contenu déteint, pour ainsi dire, sur ses voisines, rend compte d'elle-même à d'autres, sort en quelque sorte pour être su, et qu'ainsi tout le champ de l'expérience se trouve être transparent de part en part, ou constitué comme un espace qui serait rempli de miroirs? Cette bilatéralité des parties de l'expérience, à savoir d'une part qu'elles sont avec des qualités propres, d'autre part qu'elles sont rapportées à d'autres parties et sues, l'opinion régnante la constate et l'explique par un dualisme fondamental de constitution appartenant à chaque morceau d'expérience en propre. Dans cette feuille de papier, il n'y a pas seulement, dit-on, le contenu, blancheur, minceur, etc., mais il y a ce second fait de la conscience de cette blancheur et de cette minceur. Cette fonction d'être rapportée, de faire partie de la trame entière d'une expérience plus compréhensive, on l'érige en fait ontologique, et on loge ce fait dans l'intérieur même du papier, en l'accouplant à sa blancheur et à sa minceur. Ce n'est pas un rapport extrinsèque qu'on suppose, c'est une moitié du phénomène même. Je crois qu'en somme, on se représente la réalité comme constituée de la façon dont sont faites les couleurs qui nous servent à la peinture. Il y a d'abord des matières colorantes qui répondent au contenu, et il y a un véhicule, huile ou colle, qui les tient en suspension et qui répond à la conscience. C'est un dualisme complet, où, en employant certains procédés, on peut séparer chaque élément de l'autre par la voie de soustraction. C'est ainsi qu'on nous assure qu'en faisant un grand effort d'abstraction introspective, nous pouvons saisir notre conscience sur le vif comme une activité spirituelle pure, en négligeant à peu près complètement les matières qu'à un moment donné elle éclaire. Maintenant, je vous demande si on ne pourrait pas tout aussi bien renverser absolument toute cette manière de voir. Supposons, en effet, que la réalité première soit de nature neutre, et appelons-la par quelques noms encore ambigus comme phénomène, donné, Vorfindung. Moi-même, j'en parle volontiers au pluriel, et je lui donne le nom d'expérience pure. Ce sera un monisme, si vous voulez, mais un monisme tout à fait rudimentaire et absolument opposé au soi-disant monisme bilatéral du positivisme scientifique ou spinoziste. Ces expériences pures existent et se succèdent, entrent dans des rapports infiniment variés les unes avec les autres, rapports qui sont eux-mêmes des parties essentielles de la trame des expériences. Il y a conscience de ces rapports au même titre qu'il y a conscience de leurs termes. Il en résulte que des groupes d'expériences se font remarquer et distinguer, et qu'une seule et même expérience, vu la grande variété de ses rapports, peut jouer un rôle dans plusieurs groupes à la fois. C'est ainsi que dans un certain contexte de voisins, elle serait classée comme un phénomène physique, tandis que dans un autre entourage, elle figurerait comme un fait de conscience, à peu près comme une même particule d'encre peut appartenir simultanément à deux lignes, l'une verticale, l'autre horizontale, pourvu qu'elles soient situées à leur intersection. Prenons, pour fixer nos idées, l'expérience que nous avons à ce moment du local où nous sommes, de ces murailles, de cette table, de ces chaises, de cet espace. Dans cette expérience pleine, concrète et indivise, telle qu'elle est là, donnée, le monde physique objectif et le monde intérieur et personnel de chacun de nous se rencontrent et se fusionnent comme des lignes se fusionnent à leur intersection. Comme chose physique, cette salle a des rapports avec tout le reste du bâtiment, bâtiment que nous autres nous ne connaissons et ne connaîtrons pas. Elle doit son existence à toute une histoire de financiers, d'architectes, d'ouvriers. Elle pèse sur le sol. Elle durera indéfiniment dans le temps. Si le feu y éclatait, les chaises et la table qu'elle contient seraient vite réduites en cendres. Comme expérience personnelle, au contraire, comme chose rapportée, connue, consciente, cette salle a de tout autre tenants et aboutissants. Ses antécédents ne sont pas des ouvriers, ce sont nos pensées respectives de tout à l'heure. Bientôt, elle ne figurera que comme un fait fugitif dans nos biographies, associé à d'agréables souvenirs. Comme expérience psychique, elle n'a aucun poids. Son ameublement n'est pas combustible. Elle n'exerce de force physique que sur nos seuls cerveaux, et beaucoup d'entre nous nient encore cette influence, tandis que la salle physique est en rapport d'influence physique avec tout le reste du monde. Et pourtant, c'est de la même salle absolument qu'il s'agit dans les deux cas. Tant que nous ne faisons pas de physique spéculative, tant que nous nous plaçons dans le sens commun, c'est la salle vue et sentie qui est bien la salle physique. De quoi parlons-nous donc si ce n'est de cela ? De cette même partie de la nature matérielle que tous nos esprits, à ce même moment, embrassent, qui entre telle qu'elle dans l'expérience actuelle et intime de chacun de nous, et que notre souvenir regardera toujours comme une partie intégrante de notre histoire. C'est absolument une même étoffe qui figure simultanément, selon le contexte que l'on considère, comme fait matériel et physique, ou comme fait de conscience intime. Je crois donc qu'on ne saurait traiter conscience et matière comme étant d'essence disparate. On n'obtient ni l'une ni l'autre par soustraction, en négligeant chaque fois l'autre moitié d'une expérience de composition double. Les expériences sont au contraire primitivement de nature plutôt simple. Elles deviennent conscientes dans leur entier, elles deviennent physiques dans leur entier, et c'est par voie d'addition que ce résultat se réalise. Pour autant que des expériences se prolongent dans le temps, entrent dans des rapports d'influence physique, se brisant, se chauffant, s'éclairant, etc., mutuellement, nous en faisons un groupe à part, que nous appelons le monde physique. Pour autant, au contraire, qu'elles sont fugitives, inertes physiquement, que leur succession ne suit pas d'ordre déterminé, mais semble plutôt obéir à des caprices émotifs, nous en faisons un autre groupe, que nous appelons le monde psychique. C'est en entrant à présent dans un grand nombre de ces groupes psychiques que cette salle devient maintenant chose consciente, chose rapportée, chose sue. En faisant désormais partie de nos biographies respectives, elle ne sera pas suivie de cette sotte et monotone répétition d'elle-même dans le temps qui caractérise son existence physique. Elle sera suivie, au contraire, par d'autres expériences qui seront discontinues avec elle ou qui auront ce genre tout particulier de continuité que nous appelons souvenir. Demain, elle aura eu sa place dans chacun de nos passés. Mais les présents divers auxquels tous ces passés seront liés demain seront bien différents du présent dont cette salle jouira demain comme entité physique. Les deux genres de groupes sont formes d'expériences, mais les rapports des expériences entre elles diffèrent d'un groupe à l'autre. C'est donc par addition d'autres phénomènes qu'un phénomène donné devient conscient ou connu. Ce n'est pas par un dédoublement des sens intérieurs. La connaissance des choses leur survient, elle ne leur est pas immanente. Ce n'est le fait ni d'un moi transcendantal, ni d'une Bewusstheit ou acte de conscience qui les animerait chacune. Elles se connaissent l'une l'autre, ou plutôt il y en a qui connaissent les autres, et le rapport que nous nommons connaissance n'est lui-même, dans beaucoup de cas, qu'une suite d'expériences intermédiaires parfaitement susceptibles d'être décrites en termes concrets. Il n'est nullement le mystère transcendant où se sont complus tant de philosophes. Mais ceci nous mènerait beaucoup trop loin. Je ne puis entrer ici dans tous les replis de la théorie de la connaissance ou de ce que, vous autres Italiens, vous appelez la gnoséologie. je dois me contenter de ces remarques écourtées ou simples suggestions qui sont, je le crains, encore bien obscures faute des développements nécessaires. Permettez donc que je me résume, trop sommairement et en style dogmatique, dans les 6 thèses suivantes. 1. La conscience, telle qu'on l'entend ordinairement, n'existe pas, pas plus que la matière à laquelle Berkeley a donné le coup de grâce. 2. Ce qui existe et forme la part de vérité que le mot de « conscience » recouvre, c'est la susceptibilité que possèdent les parties de l'expérience d'être rapportées ou connues. 3. Cette susceptibilité s'explique par le fait que certaines expériences peuvent mener les unes aux autres par des expériences intermédiaires nettement caractérisées, de telle sorte que les unes se trouvent jouer le rôle de choses connues, les autres celui de sujets connaissants. 4. On peut parfaitement définir ces deux rôles sans sortir de la trame de l'expérience même et sans invoquer rien de transcendant. 5. Les attributions sujet et objet, représenté et représentatif, chose et pensée, signifient donc une distinction pratique qui est de la dernière importance, mais qui est d'ordre fonctionnel seulement, et nullement ontologique comme le dualisme classique se la représente. 6. En fin de compte, les choses et les pensées ne sont point foncièrement hétérogènes, mais elles sont faites d'une même étoffe, étoffe qu'on ne peut définir comme telle, mais seulement éprouvée, et que l'on peut nommer, si on veut, l'étoffe de l'expérience en général. End of section 14, chapitre 8. End of Essays in Radical Empiricism by William James.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Graham laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Graham keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Graham laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.